Chapitre 30. J'avale une dernière bouchée de mon Moi Burger et je finis mon soda enrichi aux vitamines. Je pose ma vaisselle sale dans l'évier et jette un coup d'œil à l'horloge murale. Déjà 21h33. Je ferai bien de me hâter. Mes premières années sur Erid ont été pour le moins incertaines. Les Tomib m'ont maintenu en vie, mais j'étais gravement malnutri. Les microbes m'apportaient les calories, mais ils ne constituaient pas une alimentation équilibrée. Ce fut donc une époque très difficile. J'ai eu le scorbut, le beriberi et une panoplie de maladies diverses. Cela en a-t-il valu la peine? Je ne sais pas. Je ne le saurai peut-être jamais. Je n'ai aucun moyen de communiquer avec la Terre. Elle est à 16 années-lumière. Pour ce que j'en sais, les scarabées ont très bien pu tomber en panne ou manquer leur cible. Les prévisions des climatologues tels que Leclerc étaient-elles fiables? Peut-être le projet Dernière Chance était-il voué à l'échec depuis le début? Peut-être la Terre est-elle un désert glacé jonché de milliers de cadavres? J'essaye de rester positif, cependant. C'est tout ce qui me reste. À part cela, les Éridiens sont des hôtes fantastiques. Ils n'ont pas de gouvernement à proprement parler, mais toutes les entités qui comptent ont immédiatement accepté de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour me maintenir en vie. Après tout, j'ai joué un rôle critique dans le sauvetage de leur planète. Et même si cela n'avait pas été le cas, je reste une créature intelligente venue d'une autre planète. Bien sûr qu'ils vont me garder en vie. Je présente un intérêt scientifique majeur. Je vis sous un dôme, au milieu d'une de leurs villes. Quoique « ville » ne soit pas le terme adapté. On peut plutôt parler d'un amas, je pense. J'ai un jardin et tout. D'après ce qu'on m'a dit, 30 Éridiens s'occupent de l'entretien de mon système de support vie. Mon dôme se trouve tout près d'un très grand centre de recherche scientifique. Les plus grands esprits d'Érid y travaillent avec enthousiasme, générant une vibration, un vrombissement. Quand ils vrombissent, ils chantent et discutent à la fois. Tout le monde parle en même temps, et j'ai remarqué que ce n'était pas un processus entièrement conscient. Néanmoins, ils finissent toujours par prendre une décision, par aboutir à une conclusion. On pourrait dire que le vrombissement est plus intelligent que les Éridiens qui le créent, que ceux-ci sont capables de devenir les neurones ad hoc d'un esprit collectif. Des neurones qui s'agitent ou se soustraient à leur guise. Comme je suis particulièrement intéressant, tous les scientifiques de la planète sont venus, à un moment ou à un autre, pour vrombir avec les autres et trouver des moyens de me maintenir en vie. On m'a dit que c'était le deuxième vrombissement le plus important de l'histoire d'Erid, le premier étant bien sûr celui qui avait précédé la mission de Rocky. Grâce à ma collection de revues scientifiques, ils connaissent mes besoins nutritionnels et savent comment synthétiser les vitamines dont j'ai besoin. Une fois réglé ce problème primordial, des équipes réduites se sont attelées à l'amélioration du goût de mes aliments. Avec mon concours, bien sûr. On m'a beaucoup demandé de goûter. Le glucose, commun au biome éridien et humain, est primordial. Leur plus grande réussite, c'est d'avoir cloné mes tissus musculaires pour les cultiver en laboratoire. Je remercie les scientifiques terriens pour cela. Leurs collègues éridiens étaient loin d'avoir les connaissances nécessaires lorsque je suis arrivé. C'était il y a 16 ans. Depuis, ils ont rattrapé une partie de leur retard. Bref, cela signifie que je remange de la viande. Oui, je mange de la viande humaine. Mais c'est la mienne, donc ce n'est pas grave. Essayez de vous nourrir uniquement des boissons vitaminées au goût bizarre vaguement sucré pendant 10 ans, et voyez si vous refuseriez un burger. J'adore les Moi Burger. J'en mange chaque jour. Je prends ma canne et je sors. Je ne suis plus un jeune homme, et la forte pesanteur des rides a accéléré la dégénérescence de mes os. Je crois que j'ai 53 ans, mais je n'en suis pas sûr. Il y a eu beaucoup de dilatation temporelle dans mes voyages. En tout cas, je sais que 71 années se sont écoulées sur Terre depuis ma naissance. Je sors par la porte principale. Il n'y a pas de plantes dans mon jardin. Je suis le seul être vivant de cette planète à pouvoir survivre dans mon environnement. Il y a de jolies pierres, arrangées avec goût en revanche. C'est devenu un de mes hobbies. J'essaie d'embellir mon jardin. Les Éridiens ne voient là que des cailloux, tandis que je profite des couleurs. Ils ont installé des projecteurs au sommet du dôme dont la lumière varie sur une durée de 24 heures. Je leur ai expliqué que c'était très important pour mon moral, aussi se sont-ils empressés de me satisfaire. J'ai néanmoins dû expliquer à ce peuple voyageur interstellaire comment fabriquer des ampoules électriques. Je traverse une allée gravillonnée jusqu'à une des nombreuses chambres de rencontre réparties autour de mon dôme. Les Éridiens apprécient la communication en face à carapace, autant que les humains, et ces chambres sont un bon compromis. Ma moitié de la chambre est à l'intérieur de mon environnement, tandis que de l'autre côté de la paroi en xénonite transparente se trouve une chambre ouverte sur l'atmosphère de la planète. Je claudique à l'intérieur. C'est une des chambres les plus petites, conçue pour accueillir deux interlocuteurs seulement. C'est également notre chambre de rencontre de prédilection. Rocky m'attend dans sa moitié éridienne.
Enfin, j'attends depuis 13 minutes. Tu as beaucoup traîné.
Je comprends parfaitement l'éridien désormais, et Rocky maîtrise l'anglais. Je suis vieux, mon pote. J'ai besoin de temps pour me préparer le matin.
Ah, tu as mangé, c'est ça?
Me demande-t-il avec une pointe de dégoût dans la voix. Je croyais qu'il ne fallait pas parler de ça en société.
En société, oui, mais ce n'est que moi, mon ami.
Alors, quoi de neuf? M'enquiers-je en gloussant. Il s'agit et remue. Jamais je ne l'ai vu dans un tel état d'excitation.
Je viens de recevoir un message de la ruche d'astronomie. Il y a du nouveau.
Sol? Ils ont des nouvelles de Sol? Demandai-je en retenant mon souffle.
Oui.
Quintil.
Ton étoile a recouvré sa brillance d'antan.
Mon cœur cesse de battre. Tu es sûr? Je veux dire à 100%?
Oui. Les données ont été analysées par une vibration de 32 astronomes. Tout coïncide.
Je suis incapable de bouger. Je respire à peine. Je me mets à trembler. C'est fini. Nous avons gagné. Tout simplement. Sol, le soleil de la Terre, a recouvré sa luminosité d'avant les astrophages. Cela ne peut signifier qu'une chose, il n'y a plus d'astrophages. Ou bien en reste-t-il si peu qu'il ne représente pas une menace? On a gagné. On a réussi.
Et ton visage fuit de nouveau,
remarque Rocky en penchant sa carapace.
Ce n'était pas arrivé depuis un bail. Rappelle-moi, ça signifie que tu es heureux ou que tu es triste. Ça peut être les deux, c'est bien ça?
Je suis heureux, évidemment, réponds-je dans un sanglot.
Ouais, je m'en doutais, c'était pour vérifier.
Il serre une pince et la met contre la xénonite.
Ça vaut bien un check, non?
Carrément, et plutôt deux fois qu'une, confirmai-je en pressant mon poing contre la paroi.
On dirait que vos scientifiques s'y sont mis tout de suite. Si on compte le temps qu'il a fallu au scarabée pour arriver à bon port, et celui que la lumière de Sol a mis à nous parvenir, je pense qu'ils ont mis moins d'un an à régler le problème.
J'acquiesce de la tête. Je n'arrive pas à y croire.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer chez toi ou rester ici?
Les entités qui prennent les décisions pour les Éridiens ont proposé depuis longtemps de remplir les réservoirs du Dernière Chance. Le vaisseau est positionné en orbite autour de la planète, là où Rocky et moi sommes arrivés il y a déjà tellement d'années. Les Éridiens pourraient me fournir carburant et vivres, m'aider à vérifier que tout fonctionne bien, à partir. Je ne leur ai pas encore demandé. Ce serait un voyage long et solitaire, et jusqu'à il y a une minute, je ne savais même pas si la Terre était toujours habitable. Éride n'est pas ma planète, mais au moins y ai-je des amis. Je ne sais pas. Je me fais vieux, et ce n'est pas la porte à côté.
Personnellement, j'ai bien sûr envie que tu restes, mais c'est toi qui vois.
Rocky, cette nouvelle, la Terre, ça donne un sens à ma vie, tu sais. Je n'arrive. Je me remets à sangloter.
Oui, je sais. C'est pour ça que je voulais te l'annoncer moi-même.
Je regarde ma montre. Oui, les Héridiens m'ont fabriqué une montre. Ils me font tout ce que je leur demande, mais j'essaie de ne pas abuser. Il faut que j'y aille, je suis en retard. Rocky,
je sais,
répète-t-il en penchant sa carapace dans ce que j'ai appris à identifier comme un sourire.
Je sais, on en reparlera plus tard. Il faut que je rentre de toute façon. Adriane va bientôt dormir et il faut que je sois là pour l'observer.
Nous nous dirigeons tous les deux vers nos sorties respectives lorsqu'il s'arrête.
Hé, Grace, ça t'arrive de penser à la présence de vie ailleurs ?
Bien sûr, tout le temps, réponds-je en m'appuyant sur ma canne.
À moi aussi,
dit-il en faisant demi-tour.
Les théories sont difficiles à contester. Un ancêtre de l'astrophage a ensemencé Éride et la Terre il y a des milliards d'années.
Ouais. Et je vois où tu veux en venir.
C'est vrai?
Absolument. Je bascule mon poids d'un pied sur l'autre pour soulager mes articulations rongées par l'arthrite. La pesanteur des rides met mon corps de terrien à rude épreuve. Il y a moins de 50 étoiles dans le voisinage immédiat de Tau Ceti, dont deux, les nôtres, accueillent la vie. À moins qu'il y en ait d'autres. Il se pourrait que la vie, du moins celle engendrée par Tau Ceti, soit moins rare que nous le pensions dans la galaxie.
Tu crois qu'on va en rencontrer d'autres? Je veux dire, des formes de vie intelligentes?
Qui sait? On s'est bien rencontrés, toi et moi. Ce n'est pas rien.
Ouais, ce n'est pas rien. Allez, au boulot, vieillard.
À plus tard, Rocky.
À plus tard.
Je sors de ma chambre et claudique le long du périmètre de mon dôme. Celui-ci est entièrement constitué de xénonite transparente. Les Héridiens se sont dit que cela me conviendrait mieux. En réalité, cela m'est égal. À l'extérieur, il fait noir tout le temps. Oh, je peux braquer une lampe torche vers l'extérieur et, avec un peu de chance, voir un Héridien vaquer à ses occupations. En tout cas, il n'est pas question de panorama spectaculaire, ni de vue à tomber par terre sur une chaîne de montagnes. Le noir est absolu, d'encre. Mon sourire vacille un peu. La Terre a connu des jours difficiles, mais à quel point? Ont-ils travaillé de concert pour survivre? Ou bien des millions de gens sont-ils morts dans des guerres ou à cause de la famine? Ils ont réussi à récupérer les scarabées, à lire mes données et à appliquer ma solution. Une solution qui impliquait d'envoyer une sonde sur Vénus. Des infrastructures avancées subsistent donc. Je parie qu'ils ont coopéré. Peut-être fais-je preuve d'un optimisme exagéré et coupable, mais l'humanité est capable de véritables prodiges lorsqu'elle met ses ressources intellectuelles en commun. Après tout, on a coopéré pour construire la dernière chance. Réussite majeure s'il en est. Je relève la tête. Peut-être rentrerai-je à la maison un jour, pour en avoir le cœur net. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai du pain sur la planche. Je longe l'allée gravillonnée jusqu'à la porte à double battant d'une grande chambre de rencontre. Ma préférée, je dois le dire. J'entre dans la chambre. Un cinquième de l'espace est occupé par mon environnement terrien. De l'autre côté de la paroi transparente, 30 petits Héridiens sautent partout comme des idiots. Aucun n'a plus de 30 ans terrestres. Le processus de sélection qui les a amenés à moi est... Bref. La culture Héridienne est compliquée. Au centre de l'espace qui m'est réservé, se dresse un clavier d'orgue de type terrien, mais possédant nombre de fonctionnalités que n'ont pas les instruments humains. Il est ainsi capable d'inflexion, de modulation et de subtilité typique du langage parlé. Je m'installe dans le fauteuil confortable, fais craquer mes phalanges et commence mon cours. Bien, bien, bien. Jouais-je. Calmez-vous et asseyez-vous, je vous prie. Les élèves se précipitent derrière leur pupitre et s'assoient en silence, prêts à assister au cours. Quelqu'un parmi vous connaît-il la vitesse de la lumière ? 12 gamins lèvent aussitôt la pince.